Oui, je vais me livrer à un exercice un peu gênant, je vous le cache pas, qui consiste à parler un peu de moi. On m'a demandé d'expliquer comment est-ce qu'on en venait à l'histoire des jardins. J'avoue que le cas que je connais le moins mal, c'est encore le mien. Il se trouve que je suis historien des jardins un petit peu par accroc. En fait, je suis un pur fruit, pur sucre de l'université française, de l'université Paris 1 en particulier. Et je suis un historien de l'architecture au départ. Mon point de départ, c'était les glacières. Lorsque je suis. Bon, je ne vais pas jouer les vieux professeurs, mais lorsque je suis arrivé à Paris 1 en maîtrise, qu'il s'agissait de choisir un sujet, je suis allé voir Daniel Rabraud qui m'a dit sur quoi voulez-vous travailler? Je lui ai dit je voudrais travailler sur les glacières. Je crois que ça l'a définitivement marqué. En tout cas, c'était une volonté sans doute un peu naïve de ma part, mais ça ne m'a pas empêché de continuer sur ces matières. En fait, les premières choses que j'ai pu faire dans ce domaine ont regardé justement les bibliothèques et les livres, puisque en travaillant sur les glacières, j'étais tombé chez Le Rouge sur les jardins à la mode, puis jardins anglo-chinois, dans lesquels il y avait un cahier sur les jardins du Baguenau en Westphalie, avec une belle coupe et une belle élévation de glacière. Donc là, j'ai mis une photo, enfin une diapositive de ce document que j'avais vu à l'époque à la bibliothèque Jacques Doucet, qui conserve pour ce cahier un exemplaire tout à fait exceptionnel, puisqu'il est aquarellé. Et donc, quelques années plus tard, la bibliothèque de l'INHA m'avait demandé de faire une notice. Très, très immodestement, je vous ai mis la diapositive pour expliquer quel était l'intérêt de ces volumes de Le Rouge aquarellé. Voilà, ça c'était un peu une très brève introduction de ce que je vais essayer de vous montrer. Qui va consister à présenter un petit peu les dossiers sur lesquels j'ai été amené à travailler, avec évidemment seul d'abord et puis ensuite avec des étudiants, et ce que l'on appelle comme en termes d'éléments de langage des produits restitués, qui sont l'achèvement de nos recherches sous la forme d'articles, de publications et éventuellement autre chose, on verra ça tout à l'heure. Oui, j'ai même mis je poussais le luxe jusqu'à mettre le plan de ce jardin du Baguenau avec la glacière entourée en rouge, mais je pense que c'est pas, on n'a pas guère de temps, donc je ne vais pas insister là-dessus. L'un des premiers jardins sur lequel j'ai publié, à dire vrai, c'est le jardin de Maupertuis, il y a quelques années maintenant. Ce jardin a été pour moi, et c'est peut-être un peu un élément de méthodologie, l'occasion de prendre les choses un peu à rebrousse-poil. Alors Maupertuis, évidemment, tout le monde pense, enfin oui, ceux qui connaissent un tant soit peu, pensent au château de Ledoux, pensent à la pyramide de Brongniart. Et entre-temps, il y a le plan du jardin qui m'avait interpellé, comme on dit maintenant, sur le plan d'intendance que j'ai mis un petit peu plus loin. Et toujours à partir de mes premières recherches sur les glacières, j'ai été amené à fréquenter la bibliothèque Doucet dans des volumes précieux comme le recueil de jardinage de Pierre Panseron, dont je vous ai mis ici une planche, et puis une autre, là aussi c'est un exemplaire extrêmement précieux, aquarellé, et dans lequel il y a même la liste des souscripteurs avec le prix qu'ils ont payé leurs ouvrages. Donc c'est quelque chose de tout à fait passionnant d'un point de vue bibliophilique, mais également pour les images que présente ce recueil. J'ai pris un peu à dessein des gravures qui sont des projets, et qui, à mon avis, sont à mettre en perspective avec ce jardin de Maupertuis, dont je vous mets ici le plan d'intendance, dont j'emprunte la photo au service des archives départementales de Seine-et-Marne. Et on voit bien, me semble-t-il, sur ce plan d'intendance, c'est surtout cette partie-ci donc, qui m'intéresse, le château de Ledoux étant ici, et puis notre pyramide. Vous voyez là ? Oui, on voit le point rouge. Ça va. Notre pyramide se situe à peu près ici. On voit, me semble-t-il, des analogies qui sont particulièrement intéressantes et qui m'ont fait attribuer le plan de ce jardin de Maupertuis donc, à Pierre Panseron. En fait, ce jardin, en quelques mots, il est acheté en 1713 par Joseph de Montesquieu d'Artagnan. En 1761, c'est son fils Anne-Pierre de Montesquieu Fezensac, qui est colonel du régiment royal des vaisseaux, qui reprend le domaine et qui va augmenter le château et envisager de restaurer ou de construire des jardins. En particulier à partir de 1771, date à laquelle il est nommé premier écuyer du comte de Provence. Entre 1771 et 1779, c'est donc la construction de ce jardin, du reconstruction du château et du jardin par Pierre Panseron, avant que, en 1779, le chantier soit repris par Alexandre Théodore Brongniart, qui prend la direction du chantier à cette date. Cette attribution que je fais à Pierre Panseron, elle est corroborée par les archives qui montrent que la famille Panseron est d'assez longue date installée dans la région de Maupertuis, et le père de Pierre Panseron, qui s'appelait également Pierre, était lui-même jardinier en chef du marquis de Montesquieu. Et donc ça me paraît assez évident du coup de penser que le fils qui, entre-temps, a fait de belles études, a monté l'équivalent de l'École des Arts et a publié ses recueils gravés, en fait, a pu mettre en application pour le marquis de Montesquieu ses talents de dessinateur, que l'on reconnaît ici dans l'aménagement qu'il fait de la petite rivière qui baigne le parc de Maupertuis. Vous voyez qu'il y a ce savant mélange entre, pratiquement dans l'esprit du jardin d'eau, entre les canaux, les terre-pleins, les îles. Je remontre peut-être les deux exemples que je prenais dans son recueil de jardinage et dans lesquels, me semble-t-il, il y a une très grande similitude avec ce que il a pu donner pour Maupertuis. Alors, la publication que j'ai faite sur ce jardin de Maupertuis, évidemment, je ne l'ai pas faite, c'est pas évident, mais je vous l'indique, je ne l'ai pas faite toute seule, puisque je l'ai faite avec Audrey Bourguin, qui avait réalisé pour le master Jardin historique, patrimoine et paysage de Versailles un mémoire sur le jardin de Maupertuis. Elle avait, et à tout seigneur, tout honneur, elle avait retrouvé ce dessin de Bettini grâce à l'aide de Monique Mosser, qui montre une vue à vol d'oiseau du jardin où on retrouve ces éléments de bassin un peu complexes dans cette partie-ci, avec ce mélange assez savant entre jardin régulier et jardin irrégulier. En allant un peu plus loin dans ce recueil de jardinage de Pierre Panseron, j'ai trouvé, pour préparer cette communication, d'autres planches qui, dans le fond, me feraient aller plus loin dans cette attribution, non pas qu'il faille en faire une religion ou un prurite, mais ce n'est pas inintéressant de regarder un peu plus avant les choses. Et on trouve, par exemple, cette gravure qui est une gravure d'un rocher, qu'il me paraît pas inutile de mettre en perspective avec les rochers du parc de Maupertuis, dont voilà, on a au travers de ces photos, que vous ne voyez peut-être pas aussi bien que moi sur l'écran, tout le soin qu'il y a eu à mettre en œuvre ces rochers jusqu'à créer des dessins tout à fait abstraits et passionnants, allant du chaos de la grotte dans laquelle on... oui, peut-être que le plus simple serait quand même que je vous explique la chose. Oui, vous voyez que le jardin est traversé ici par la grande route, et l'idée du créateur du jardin a consisté à disposer un souterrain sous la grande route, dans lequel on pénètre par cet amas rocheux que je vous montrais tout à l'heure, et on sort de l'autre côté dans une autre partie du jardin, cette fois-ci complètement irrégulière, appelée les Champs-Élysées. Et on sort de ce souterrain par une pyramide. Évidemment, tout ça étant dans une logique assez évidente, assez mythologique, et avec des attendus maçonniques qui ne sont pas inintéressants par ailleurs. Donc voici quelques photos donc de cette grotte, et on aperçoit sur le cliché de droite le début de cette pyramide. Hop, il y a encore une autre photo ici. Voilà, toujours dans ce recueil de penserons, nous avons également ce projet de grotte qui, là aussi, me semble-t-il, est à mettre en rapport avec la fabrique de Maupertuis, cette fameuse pyramide qui, je ne l'ai pas encore dit, est traditionnellement attribuée à Alexandre Théodore Brongniart. Il ne s'agira pas pour moi ici de dire que la pyramide est de Penserons, parce que ce serait un peu exagéré, mais sans doute serait-il intéressant de creuser encore les archives pour essayer de trouver des éléments de preuve qui viendraient, peut-être accréditer cette thèse. Je passe un peu vite, je ne sais pas. Oui, il faut que je me dépêche beaucoup, vraiment. Oui, cruel. Voici l'état actuel de cette pyramide, et on le voit mal sur la diapositive, mais en fait l'idée de cette niche, en fait, on la retrouve derrière le portique de Brongniart. Je n'irai pas au bout de tout ce que j'ai à dire, évidemment. Je vais prendre un autre exemple, cette fois-ci effectivement en région centre, c'est celui du château de Valençay. Je passe très très vite avec cette image du Louvre, du jardin, ce dessin de Moreau qui représente le château. Et c'est plutôt sur cette vue à vol d'oiseau que j'emprunte à la Bibliothèque nationale de France, et plus précisément au fonds Guénière, que je voudrais m'attarder un petit peu, parce que c'est, me semble-t-il, un exemple assez intéressant de ce que l'on peut faire à partir des documents d'archives ou des documents conservés dans les bibliothèques et dans les fonds précieux. Sur ce dessin à vol d'oiseau de Guénière, ce qui m'intéressait, c'était cette partie-ci du jardin, donc vous voyez que c'est un petit peu marginal par rapport à ce beau parterre régulier, que je mets en perspective avec cet autre dessin de Louis-Gabriel Moreau, qui représente en 1792 le château de Valençay, dans une vue en contrebas que j'imaginais au départ un peu de fantaisie, et qu'en fait une enquête sur le terrain m'a permis de confronter avec la réalité. Et effectivement, cet escalier monumental très spectaculaire, il existe déjà, il existe encore, je dirais, avec ces marches qui aujourd'hui sont envahies par la végétation. Mais peut-être plus encore, ce qui m'aura passionné dans ce dossier, et qui est encore en cours d'étude, c'est ce que l'on appelle la maison du jardinier, donc ce bâtiment qui apparaît déjà sur la vue de Guénière ici, et qui s'avère en fait être tout autre chose qu'une maison de jardinier. Le bâtiment est entièrement voûté d'arêtes et présente dans sa façade un parement qui est d'une très grande qualité, légèrement bouchardé avec ses chaînes très régulières, qui sont vraiment quelque chose, me semble-t-il, à étudier et à mettre en rapport avec tout le système hydraulique de ce jardin sur lequel, là encore, il faudrait se pencher. Il faut que... Bon. C'est vraiment très aimable. Donc, voici quelques images de ce bâtiment, appelé Maison du Jardinier, mais qui, vraisemblablement, est une fabrique. Alors, fabrique de je ne sais pas quoi encore. Il faudrait évidemment se plonger plus avant dans les archives pour comprendre le fonctionnement de ce bâtiment en lien avec le château et surtout le réseau hydraulique, puisque ce bâtiment fait partie d'un ensemble qui abritait une noria qui alimentait en eau le jardin du château en contre-eau, vous l'avez compris. Ces études que je fais désormais plutôt sur la région centre correspondent à ma fiche de poste. Lorsque je suis arrivé à l'université de Tours, on m'a demandé de développer ce que l'on a appelé impudiquement un ancrage local. Et c'est la raison pour laquelle je me suis plutôt penché sur la région centre, sachant que ça ne me dérangeait pas tellement, étant moi-même un peu natif de ce coin-là. J'ai eu la chance d'être entouré d'étudiants et jeunes chercheurs tout à fait passionnants et passionnés, sur lesquels j'ai pu, auxquels j'ai pu confier des sujets d'études, comme Azel Rideau, mais là encore avec des chemins de traverse, sur une étude d'Azel Rideau au XIXe siècle. Voici une image. Et cet étudiant a trouvé ces images absolument formidables qui montrent le château d'Azel Rideau flanqué d'une fabrique chinoise telle que on l'imagine assez peu aujourd'hui dans l'imagerie des jardins de la Renaissance. Alors, il se trouve que ce garçon, Olivier Prissé, a poursuivi aujourd'hui ses études et prépare un doctorat qui promet d'être tout à fait passionnant sur l'architecte départemental de l'Indre. Et en tout cas, sur ses recherches sur le château d'Azel Rideau ont débouché sur une publication dans la revue Histoire de l'Art. C'est le dernier sujet sur lequel je voudrais très très vite vous dire quelques mots. C'est un autre jardin, cette fois-ci étudié par une de mes étudiantes en master 2, voici 2 ans maintenant, Delphine Desbourdes, qui est le jardin du château de Véretz. Nous sommes ici à côté de Tours, et c'est un jardin qui regarde le Cher, qui est disposé sur les rives du Cher. Et c'est c'est le château des Ducs d'Aiguillon en Val-de-Loire, château que je connaissais pour d'autres raisons, parce que j'avais été à Aiguillon, que j'avais visité le musée d'Agen, que j'étais tombé sur ces vues de Blarenberg qui montraient ce château dont j'avoue j'avais à l'époque pas connaissance. Voici une autre vue de Blarenberg qui montre certes le Cher, mais surtout le site particulièrement intéressant de ce jardin, avec la construction, sans doute au début du XVIIIe siècle, de cette immense terrasse qui regarde le Cher, dont j'ai dû mettre un détail, mais qui n'apparaît pas ici. Voici le plan de cet ensemble, qui, vous le voyez, est beaucoup plus impressionnant que les vues de Blarenberg le montraient même. Ce parc a une superficie de 150 hectares à l'origine, et la partie sans doute la plus spectaculaire, c'est cette étoile forestière qui compte pas moins de 18 avenues, sans parler de cette succession de bassins, cette grande partie paysagère ici, et donc notre château avec les parties régulières qui sont situées ici le long du Cher. Alors voici, j'emprunte ces documents au master de cette étudiante qui a fait tout un travail graphique assez intéressant autour du jardin. Voici quelques détails qui montrent la terrasse en particulier ici. Des terrasses qui existent toujours, ainsi que un certain nombre des parties construites de ce jardin qui aujourd'hui commence à être légèrement grignotées par l'urbanisation. On est à quelques kilomètres seulement de la ville de Tours. Et c'est par là que je finirai. C'est un autre volet sans doute qui s'ouvre à moi dans les fonctions que j'occupe à l'Université de Tours, ce serait d'envisager une protection pour ce jardin. Et il se trouve que, par chance, mon ancrage local a marché, la greffe a prise, puisque depuis cette année, j'ai l'honneur de participer au comité régional des monuments historiques. Et donc, sans doute, par ce biais-là, essaierai-je de valoriser et envisager une protection de ce jardin. Je vous remercie.